deux préalables. Petit additif à la bibliographie, si cela vous intéresse. Je ne l'ai pas mis dans la bibliographie. Pour la revue Unité des chrétiens, qui est consacrée à l'écuménisme, j'ai écrit dans le numéro de juillet 2000 un article sur les perspectives baptistes à propos du baptême et un rapport aux autres églises. C'est un numéro qui héberge des articles de tendances diverses. Donc le responsable m'a demandé d'exprimer le point de vue baptiste évangélique, ce que j'ai fait. Cela peut vous intéresser de voir comment j'ai tenté de répondre à la question posée, baptême et dialogue écuménique, point de vue baptiste. Alors il doit être dans la bibliothèque, oui. Juillet 2000. Deuxième élément d'annonce. Plusieurs ont demandé à quelles conditions le cours pourrait être validé pour notre comptabilité académique ici à la faculté. Vous savez que les unités de valeur, nous les appelons des HSA, heures, semaines, années. Une HSA, c'est le poids que représente un cours d'une heure par semaine pendant toute une année. Et nous avons donc des exigences diverses qui permettent de valider un cours. Pour avoir l'année de licence, la troisième année, il faut 16 HSA, 12 pour la quatrième, parce que l'étudiant prépare en même temps ses grands examens de la fin des études et son mémoire. C'est notre façon de procéder. Alors nous avons accepté le principe de validation des cours de l'université d'été, comme aussi des cours décentralisés qui se donnent à Lyon. Pour valider, il faut faire des travaux et passer des examens, et ne pas se contenter donc d'assister aux heures de cours. Pour le cours sur la théologie des sacrements que nous allons achever ce matin, je crois qu'il est juste, conforme à ce que nous avons demandé dans des cas analogues, de dire qu'il peut être validé pour une demi-HSA. Normalement, une demi-HSA implique entre 12 et 14 heures de cours en classe. Vous en avez bien moins dans l'université d'été. Donc il faut compenser par des travaux personnels plus lourds. C'est comme ça que nous procédons ordinairement. Alors, je vous demanderai, si vous voulez valider, de faire 400 pages de lecture, minimum. 400 pages de lecture sur le sujet des sacrements. Vous les choisissez dans la liste que je vous ai proposée, mais aussi au-delà de cette liste. Si vous avez des ouvrages de qualité académique qui portent sur le sujet, qui peuvent vraiment se loger dans le champ que nous avons balayé, vous êtes libre de choisir aussi ces lectures. Et quand vous les aurez faites, vous m'en rendrez compte en donnant toutes les références des ouvrages lus, et page tant à page tant, pour que je puisse bien me rendre compte et valider pour cette partie qui est la partie des lectures. Ensuite, un travail écrit que vous faites à tête reposée, une recension critique dans le genre qu'on trouve dans les revues de théologie et également dans notre petite revue Fac Réflexion par exemple, ça peut vous donner une idée. Nous en avons de plus ou moins longues. La recension, donc évaluation critique, qui présente un ouvrage et qui note ses points forts et ses points faibles en motivant les remarques, cette recension critique devrait avoir entre 4 et 6 pages. Pour savoir quelle forme lui donner, il est pratiquement impératif d'avoir le guide des dissertations et mémoires. Les étudiants ont là l'énoncé des normes que nous imposons. Nous sommes indulgents en ce qui concerne les travaux qui se font en cours d'étude, comme une recension critique par exemple, s'il y a un certain écart par rapport aux normes que nous avons édictées, nous le supportons, nous ne le supportons pas pour le mémoire. Là, pour le mémoire, c'est rigoureusement impératif. Mais disons qu'il est toujours recommandé de respecter ces normes aussi dans les travaux plus légers qui sont faits en cours d'études. Et je crois que si vous voulez valider, il faudrait que vous vous procuriez aussi le guide des dissertations et mémoires. Un guide qui donne quelques indications quant à la manière de faire les recherches et de concevoir même tout le travail, mais qui est surtout consacré aux normes formelles. Comment on rédige une note, quelles sont les indications bibliographiques à inclure, etc. Où on met la virgule, où on met un point. Ce sont des choses qui sont réglées, qui ne sont pas laissées comme ça à la fantaisie de l'étudiant. Donc, pour faire cette recension, je vous recommanderais de vous procurer, Marie-Claude normalement doit pouvoir vous en donner, un exemplaire du guide des dissertations et mémoires. Et donc, cette recension de 4 à 6 pages devrait porter soit sur un livre, soit, éventuellement, je ne peux pas l'exclure, sur une collection, disons, de 3 articles, 3 ou 4 articles. Vous pouvez aussi lire des articles. Le livre ou les articles sur lesquels porterait la recension sont à compter dans les 400 pages de lecture. Si vous lisez un livre de 800 pages, alors évidemment vous aurez des lectures en excédent, mais vous pouvez lire un livre de 100 pages. C'est tout à fait possible. Ou 3-4 articles qui font 80-100 pages. Je l'admets tout à fait. Alors, il me semble que les conditions spéciales des étudiants d'université d'été et du décentralisé aussi font que nous devons laisser les dates libres. Ce sera validé quand tout le travail sera fait. Pour nos étudiants dans l'année, il y a des dates impératives, c'est fixé. Mais vos circonstances de vie sont tellement diverses, il y a des ministères tellement prenants, etc., que je crois qu'il n'est pas vraiment sage d'imposer des dates limites. Bon, je sais que c'est une aide psychologiquement pour au moins pour beaucoup d'étudiants que d'avoir des dates limites, mais bon, en même temps, il me semble que c'est une imposition trop dure dans les circonstances qui sont probablement les vôtres. Donc, quant à moi, en tout cas, je ne fixe pas de date. Et pas non plus de date pour l'examen. Parce que le troisième élément devrait être un petit examen, 2 heures. Et sans que je garantisse que nous agirons toujours de cette façon, sans que ce puisse être considéré comme un droit. Il faut être prudent quand même, et aussi prudent par rapport à d'autres écoles qui pourraient à ce moment-là réagir négativement. Je crois que nous pouvons procéder dans la transparence de nos rapports fraternels, comme nous le faisons actuellement avec les étudiants du décentralisé à Lyon. Jouez la confiance, l'examen, vous le passez chez vous, à la date qui vous convient, là encore. Vous demandez, avant cette date, d'avoir un sujet. Le sujet est envoyé sous enveloppe collée, si donc achetée, et au moment où vous êtes prêt pour l'examen, vous ouvrez l'enveloppe, vous rédigez pendant ces 2 heures, vous avez toujours l'usage de la Bible, une Bible sans notes, pas la Bible d'études de Sommer quand même, hein, mais une Bible sans notes doctrinales, oui, exégétique à disposition et dans toutes les langues que vous voulez, hein. L'original, vous avez donc votre Bible et vous répondez aux questions et vous envoyez ensuite le travail à la faculté. C'est comme ça que pour l'instant en tout cas nous procédons. Alors vous voyez, si jamais il y avait un abus une fois ou l'autre, ou si nous avions des critiques, nous serions peut-être obligés de compliquer la procédure, d'avoir un examinateur. Faisons parfois pour des candidats, par exemple, il y a un examen de niveau à faire passer, dont nous trouvons un pasteur à Kinshasa pour faire passer un examen à quelqu'un. Nous en venions au sujet, mais au pasteur. Mais là, je crois que nous pouvons simplifier les procédures dans l'état très heureux de nos rapports présents. Donc c'est comme ça que nous procéderions pour la validation de la demi-HSA qui vous est offerte. Ça va, vous êtes suffisamment au clair? Donc oui, simplement pour mon cours à moi. Je ne sais pas ce que seraient les exigences d'autres professeurs. Oui, le mieux c'est de l'envoyer au secrétariat de la faculté. Bon, il a pu arriver que certains m'envoient directement les choses, mais il vaut mieux, je pense, passer par le secrétariat de la faculté. Alors j'attire encore votre attention sur le fait que la recension, c'est un genre que certains étudiants ne connaissent pas bien, et souvent je ne suis pas très satisfait par ce qui a été réalisé. Il ne s'agit pas simplement de me faire un résumé du livre, chapitre après chapitre, et avec trois lignes à la fin pour dire j'ai beaucoup profité de la lecture de ce texte. Enfin, je désire quand même un peu autre chose. Et les éléments de résumé peuvent trouver place, mais il s'agit de présenter l'ouvrage, pas seulement de le résumer, de le présenter et puis de l'évaluer. L'évaluation devant prendre au moins le tiers de la longueur totale du travail, positive et négative. Alors c'est vrai que c'est très embarrassant. L'étudiant qui a la juste humilité qui sied à ses débuts en théologie peut se dire, mais qui suis-je, comment puis-je évaluer le travail de M. Inter? mais il faut s'y essayer, avec un ton déférent, etc., mais essayer quand même. Oui. C'est en critiquant qu'on devient bon critique. Critiquant positivement, comme aussi bien de l'autre côté. Voilà donc les indications que je pense que vous pouviez souhaiter. Donc nous abordons maintenant, comme nous en étions convenus, le sujet de la Sainte Cène, ou repas du Seigneur, ou si on veut Eucharistie. Le terme d'Eucharistie n'est pas utilisé dans la Bible pour le repas ritualisé lui-même. Il signifie action de grâce et il y a d'après l'Écriture association d'une action de grâce, une prière de reconnaissance à Dieu, avec le déroulement du repas. Mais il n'est pas scandaleux qu'on ait procédé à une métonymie. Vous savez, la métonymie, c'est la figure de style où on nomme quelque chose qui est contigu à ce qui est vraiment en cause, et qu'on ait appelé Eucharistie l'ensemble de la célébration. Pendant très longtemps, le terme d'Eucharistie n'a pas été très courant chez les catholiques. Ils parlaient généralement de la messe. Mais il est significatif des changements qui se sont opérés depuis quelques décennies qu'aujourd'hui le mot messe soit beaucoup plus rare, en tout cas chez les théologiens, et qu'il parle de préférence d'Eucharistie. Le mot messe en lui-même d'ailleurs n'a rien de scandaleux, je le signale, il n'implique pas en lui-même, d'après son étymologie, le sacramentalisme que j'ai critiqué. Le mot messe est simplement tiré de la formule que l'on disait à la fin de la cérémonie, ite missa est, allez, et littéralement c'est envoyé. Missa, c'est le participe du verbe émettre. Alors les avis divergent sur ce qui était considéré comme envoyé. Certains ont pensé que cela voulait dire l'Église est envoyée, elle a été rassemblée, elle est envoyée dans le monde. Mais plus probablement, c'est la prière de reconnaissance qui a été envoyée au Seigneur. Et la cérémonie est close. Il y a un certain doute, mais en tout cas, voilà, le mot messe, qui vient donc de ce participe passé missa, n'implique pas en lui-même l'idée du sacrifice actualisé, de la transubstantiation, même de la causalité. Mais en fait, le terme s'est chargé de ces connotations-là au fil des ans. Et du coup, maintenant que ces connotations sont considérées comme plus gênantes par beaucoup de théologiens catholiques, et qu'ils veulent aussi montrer de la bonne volonté écuménique, ils préfèrent le mot d'Eucharistie. Donc nous en venons à ce sujet, et j'ai un schéma que j'espère pouvoir suivre jusqu'au bout, de telle sorte que nous ayons le temps de couvrir à peu près notre terrain, mais nous savons bien que pour gagner du temps, il nous faut l'aide du Seigneur, alors demanderons-lui de nous aider. Est-ce que Madame Philippe voudrait nous conduire dans la prière ? La scène est d'abord un repas sustentatoire complet, un repas du soir d'abord. C'est ce que veut dire le mot scène, qui n'est plus guère vivant en français, mais ceux qui ont fait italien savent que cena est toujours le terme habituel pour le repas du soir. Et le terme biblique, traduit généralement repas dans nos versions, repas du Seigneur, ce terme biblique deipnon signifie le souper. Les Anglais disent d'ailleurs the Lord's Supper, c'est le mot souper, le souper ou le dîner, si on utilise le mot dîner comme il convient vraiment en français. Pardon ? Oui. Et oui, là, le mot du soir est encore dans le terme qui est employé, le repas du soir. Signaler d'ailleurs que c'est un argument qu'utilisent les défenseurs du mode de l'aspersion pour le baptême comme un mode, disons, licite, alors même qu'ils reconnaissent que baptiser veut dire immerger, plonger. C'est le cas de l'énorme majorité de ceux qui pratiquent l'aspersion pour le baptême. Ils disent, c'est la même chose pour la Sainte-Seine. Ça veut dire repas du soir, et pratiquement tout le monde le pratique aujourd'hui le matin. Personne ne voit d'inconvénient, d'infidélité à cela, et pas plus les baptistes que les autres, voyez. Donc, puisqu'on admet ce changement pour la Sainte-Seine, pourquoi ne pas admettre aussi, en dépit du sens étymologique du terme baptisé, que le mode de l'aspersion remplace celui de l'immersion, voyez. C'est leur argument. Et c'est pas un argument qui... soit sophistique. On peut arguer, c'est ma façon de le faire, qu'on change beaucoup plus le symbolisme en remplaçant l'immersion par l'aspersion qu'en déplaçant du soir au matin le repas du Seigneur. Mais je reconnais qu'il y a un écart par rapport à ce qui était la pratique première. Et l'autre écart, bien sûr, concerne l'isolement des deux moments chargés plus directement du symbolisme que Jésus a défini, la fraction du pain et le partage de la coupe. Il semble bien qu'au départ, on ait rompu le pain et partagé la coupe du repas du Seigneur à l'occasion d'un repas complet que l'on prenait pour se nourrir. Et les paroles du récit que nous fait Paul, ou que nous transmet Paul en 1 Corinthiens 11, suggèrent même que ces deux moments étaient assez distants l'un de l'autre dans le temps. Que la fraction du pain se faisait au début, c'est un geste inaugural lorsque l'on prend le repas, on commence par rompre le pain. Le pain qui est généralement cassant. Heureusement, nous avons encore quand même de la croûte dans nos pains français. Je pense que les pains anglo-saxons, qui ne sont que Bon, donne vraiment très peu d'idées de ce que peut être rompre le pain. C'était des pains donc assez durs, des pains galettes, certainement à beaucoup d'égards, donc on casse pour se partager. Et puis la coupe, c'est après avoir soupé, le Seigneur Jésus prit la coupe et dit. Donc, il est probable que dans les premières célébrations, on faisait comme Jésus avait fait lors de son dernier repas avant de souffrir, et que les deux moments chargés de du symbolisme précis du corps et du sang étaient séparés par tout le repas qui était pris entre les deux. Et alors on ignore quand les choses ont été changées. Ça a dû se faire quand même assez vite, c'est-à-dire en une cinquantaine d'années. Mais on ne peut pas être absolument certain. Quelques-uns pensent que Paul, en disant, pour réprimer les excès qui s'étaient produits à Corinthe, ben, « Si vous avez faim, mangez chez vous », a commencé à séparer les deux moments symboliques clés de la fraction et de la coupe du repas sustentatoire complet. Mais il y a débat sur l'agape, il y a eu des controverses, en particulier au début du XXe siècle, mais ce n'est pas réglé vraiment aujourd'hui. Quel était le rapport exact avec l'agape? Qu'a-t-on pratiqué sous ce terme? Mais cela nous importe assez peu, car nous sommes plus intéressés par le sens, par la mission, par ce qui se passe. Alors à propos du sens, la première question à traiter et sur laquelle avoir une réponse assez claire, c'est le rapport à la Pâque. Le modèle réformé pose une continuité très forte entre la Pâque instituée par Moïse et puis la scène instituée par Jésus, un simple prolongement, mais il faut y regarder de plus près. Et la première donnée concerne le repas au cours duquel Jésus a institué le rite chrétien, le rite qu'il a commandé de pratiquer à ses disciples. Vous savez sans doute qu'il y a controverse, parce qu'il y a difficulté, à propos du caractère pascal du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Quand on prend les trois évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, il semble tout à fait net, vraiment sans bavure, qu'il s'agit du repas de la Pâque, que Jésus prend avec ses disciples, il fait demander où mangerai-je la Pâque avec mes disciples, on lui fournit cette chambre haute. Il dit à ses disciples, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Certains ont pris cette parole pour l'indication qu'il ne l'a pas prise, lui. Mais je trouve que c'est sans fondement. Il avait décidé de jeûner face à ses disciples. Mais tirer cela de ses paroles, ça me paraît tout à fait hors contexte, tout à fait improbable. S'il dit, j'ai désiré, parce que il montre à quel point prendre ce repas avec eux est important pour lui, est chargé d'émotions. Donc là, on a vraiment l'impression que ça ne fait pas le moindre doute que c'est la Pâque. Et puis dans l'évangile de Jean, à première lecture en tout cas, il semble que ça ne puisse pas être le cas, puisque c'est le jour suivant. Donc, disons, le vendredi, en adoptant la chronologie habituelle, moi je l'accepte, c'est le vendredi que la Pâque était célébrée, le vendredi soir. Les agneaux, surtout des agneaux, mais ça pouvait être des chevaux, hein, mais surtout des agneaux étant immolés dans l'après-midi. Et le verset qui semble le plus impliquer que la Pâque n'avait pas eu lieu le jeudi, avec la possibilité de manger le jeudi soir, mais était encore à célébrer le vendredi, c'est la mention de des chefs juifs qui n'entrent pas chez Pilate pour ne pas se souiller afin de pouvoir manger la Pâque. Et il est sûr que Jean ne dit pas que le repas dont il parle à partir du chapitre 13, et qui est manifestement le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa mort, était un repas de Pâque, c'est pas dit. Il y a la mention de la Pâque au premier verset, mais comme étant proche. Donc, il semble à première lecture qu'il y ait divergence entre le témoignage des synoptiques et le témoignage de Jean. Et certains commentateurs au moins ont fondé sur cette divergence l'opinion que le repas au cours duquel Jésus a institué donc le rite de la scène n'était pas un repas pascal. C'est une opinion. Alors il est assez remarquable que devant cette difficulté, cette divergence apparente entre les synoptiques et Jean, nombreux sont les critiques, plus ou moins libéraux, les critiques non évangéliques, qui ne se soient pas contentés, nombreux sont ceux qui ne se sont pas contentés de dire « Oh, c'est une contradiction, il y a une erreur ». Nous plaignons que trop souvent, devant une difficulté, ils réagissent immédiatement comme ça. Saluons sur ce point, sur la question qui nous occupe, la présence chez de nombreux commentateurs d'une attitude opposée. Ça fait quand même plaisir. Ils ont essayé de trouver une solution harmonisante, de comprendre comment les témoignages des synoptiques et de Jean pouvaient être pris ensemble et sans que l'un des deux soit condamné ou exclu. Je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont senti que, de part et d'autre, le témoignage a une autorité historique, même s'ils n'acceptent pas l'inspiration plénière des Écritures, ils ont senti ça, et donc ils n'ont pas accusé les textes de pure et simple contradiction. C'est bien, ça nous montre aussi qu'ils n'ont pas un parti pris qui forcément les conduit à démolir la Bible, c'est pas leur intention, même si parfois ils le font. Donc, simplement signaler cela. Oui. Oui, oui. En général, on pense le contraire, que ce lavement des pieds, avec en particulier la mention de Jésus, qu'ils se sont baignés, correspond bien à ce qui se passait pour le repas de la Pâque. Justement, bien qu'il ne soit pas dit que le repas raconté dans Jean soit le repas de la Pâque, sur plusieurs détails, y compris celui-là, cela concorde bien avec ce qui concernait le repas de la Pâque. Ça fait partie du dossier. Alors je ne peux pas vous présenter toutes les pièces de ce dossier. C'est beaucoup, beaucoup trop compliqué. Et il y a d'ailleurs un mémoire qui a été soutenu à la faculté, et qui a obtenu mention très bien en son temps, qui a été consacré entièrement à ce sujet, le mémoire du pasteur Thierry Huser, que certains d'entre vous connaissez. Donc Thierry Huser a consacré son travail de mémoire de maîtrise précisément à ce sujet, pour arriver d'ailleurs à une conclusion en forme de point d'interrogation, sans choisir une hypothèse de solution plutôt qu'une autre. Il en est aussi assez longuement question dans la thèse de doctorat que je vous ai signalée en bibliographie de M. François Bassin, consacrée à la scène. Lui, il choisit une solution, et beaucoup d'autres ont traité. Alors, je signale quelles sont les grandes lignes de solutions possibles, et que donc certains critiques libéraux ont parfois tracé. Il y a l'hypothèse de la pluralité des calendriers, qui elle-même se diversifie en plusieurs options éventuelles. L'idée que c'est en suivant un calendrier qu'on célébrait la Pâque le jeudi, cette semaine-là, cette année-là, et un autre calendrier le vendredi. Alors certains, déjà assez anciennement, parmi les spécialistes, pensaient que pharisiens et sadducéens avaient pu célébrer des jours différents. Et que Jésus aurait célébré comme les pharisiens, et alors que les sadducéens, qui sont en cause avec ces chefs juifs qui ne veulent pas entrer chez Pilate, eux célébraient le vendredi. Il y a quelques petites traces qui montrent que ça pouvait arriver, qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes principes pour fixer, c'est d'après la visibilité de la lune que c'était fixé. Donc il pouvait y avoir des divergences. Le professeur Annie Jaubert, qui était professeur à la Sorbonne, s'est rendu assez célèbre par une hypothèse plus hardie. Selon elle, les Esséniens avaient un calendrier alors tout à fait différent. Elle a écrit tout un livre là-dessus. Un calendrier différent. Elle a appuyé sa démonstration sur les données de Qumran et aussi sur le livre des Jubilés. Alors elle, c'est même pas le jeudi soir, c'est le mardi soir, je crois. Qu'elle penserait que la Pâque était célébrée et que Jésus l'aurait célébrée, en fait. Elle change aussi la chronologie de la semaine sainte qui est habituellement reçue. Et c'est un des graves inconvénients de sa théorie, d'ailleurs. Mais elle plaide donc que Jésus aurait suivi le calendrier essénien et non pas le calendrier du judaïsme plus officiel. Donc, c'est une hypothèse que certains ont choisie. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle soit totalement exclue. Il y avait, vous voyez, des confusions et des dissentiments à propos du calendrier. Pour nous, les fixations de calendrier, nous chrétiens évangéliques, n'ont pratiquement aucune importance. Nous prenons ça tout à fait légère. Nous ne sommes pas astreints aux jours et aux années. Nous sommes libres, etc. Il nous faut de rendre compte qu'à l'époque du Nouveau Testament, pour les Juifs, et encore après ça d'ailleurs pour un certain nombre de chrétiens dans l'Église ancienne, c'était d'une importance capitale. Si ce n'était pas le bon jour, tout était raté. Alors, les calendriers comptaient énormément. Et dans le dissentiment des Juifs considérés comme hérétiques par les autres, le judaïsme, qui s'opposait aussi bien aux sadducéens qu'aux pharisiens, il y avait des questions de calendrier qui jouaient un grand rôle. Plus tard dans l'Église chrétienne, ça a été la fixation du jour de la Pâque qui a amené à des conflits extrêmement vifs à la fin du IIe siècle entre les Occidentaux et les Orientaux, parmi les chrétiens même. Donc il nous faut nous rendre compte que les questions de calendrier pouvaient effectivement conduire à des pratiques différentes et qui s'opposaient. Mais au total, moi je ne suis pas quand même convaincu par aucune des présentations basées sur la différence de calendrier. Deuxième grande façon de concilier, et c'est celle que François Bassin, par exemple, que M. François Bassin préfère, il s'agit de l'initiative de Jésus. Jésus a anticipé, comme il savait qu'il allait être crucifié le lendemain, où allait se célébrer la Pâque, il a décidé de célébrer la Pâque avec ses disciples un jour d'avance. Il en avait suffisamment l'autorité, finalement c'est pas un si grand problème. Voilà la solution qui me semble assez acceptable en fait, à laquelle il tente à se rallier. Alors il y a une question qui à ce moment-là surgit, mais y avait-il un agneau? Parce que les agneaux, ils étaient immolés au temple, et là on ne pouvait pas le faire un jour à l'avance, si c'était juste une initiative individuelle. L'agneau n'est pas mentionné. Alors évidemment, il est difficile, puisque c'est l'agneau qui est appelé la Pâque. Il est un peu difficile d'interpréter manger la Pâque s'il n'y avait pas eu d'agneau. Mais peut-être qu'à la rigueur, c'est quand même possible. Le repas peut être dit la Pâque. En tout cas, cette deuxième grande solution est celle qui accepte cette élasticité et cette initiative de Jésus. Puis on a une troisième, C'est bien, j'ai vérifié ces choses dans la Bible de Semeur d'études. Ces options sont bien expliquées dans les notes. Les notes à l'évangile de Jean, Jean 19, 14. La troisième solution, qui m'a ébranlé, qui est, je crois, a pas mal attiré M. Buchold, c'est lui qui a attiré mon attention sur elle, a été proposée dans un article juste après la soutenance de M. François Bassin. Alors, j'avais presque été convaincu par François Bassin, j'étais membre de son jury, je présidais son jury. Et puis voilà que je lis cet article, et de nouveau ça m'a fait hésiter. C'est une interprétation qui est assez hardie, mais au fond, elle aussi, elle ne colle pas si mal. C'est l'idée qu'en fait, l'évangile de Jean ne requiert pas la Pâque le vendredi, mais peut très bien s'accommoder de la Pâque le jeudi. Il suffit de comprendre que les chefs juifs, c'était l'aube, c'était au tout petit matin, avaient encore juste une heure ou deux peut-être pour manger la Pâque, parce que c'était toujours considéré comme la nuit. C'était le petit matin du vendredi, mais de toute façon, les prêtres, il y avait tellement de milliers et de milliers d'agneaux à immoler qu'ils pouvaient, ils arrivaient très tard, le lendemain matin, au repas. Et donc, ils plaident que l'on peut très bien concevoir que les agneaux avaient été immolés, effectivement, le jeudi après-midi, soir, et que les chefs juifs avaient encore juste le temps de manger la Pâque. Et du coup, il n'y a plus aucun conflit entre la présentation de Jean et la présentation des synoptiques. Alors évidemment, c'était quand même le petit matin, est-ce qu'ils avaient encore le temps, voyez. C'est pas si facile à admettre, mais c'est quand même à la limite au moins admissible, et à ce moment-là, ça résout tout si simplement qu'on peut trouver que c'est une solution intéressante. Donc, diverses interprétations possibles, oui, comme M. Husser, au bout du compte, j'en reste à un point d'interrogation. En tout cas, entre les deux solutions que j'ai nommées en deuxième et troisième lieu, ce qui me paraît, de toute façon, pour notre recherche doctrinale parfaitement nette et claire, c'est que le repas avait un caractère pascal. C'était la Pâque au moins pour Jésus et ses disciples avec lui. Et donc, cela veut dire que c'est avec une certaine correspondance avec la Pâque que Jésus a conçu le rite nouveau, si on parle de rite, qu'il commandait à ses disciples de pratiquer. Oui. Oui, oui, mais je pense quand même que pour qu'il y a des textes que cite l'article que j'ai évoqué. Malheureusement, je n'ai pas apporté avec moi mes notes de cet article. Je les ai cherchées hier soir, mais je les ai pas retrouvées. Et je ne les ai pas avec moi, les dossiers que j'ai avec moi. Mais il y a des textes dans le Talmud qui autorisent les prêtres à manger la Pâque encore tard dans la nuit. C'est quand même pendant la nuit que les enfants d'Israël aussi l'avaient mangé. Hein, ils ont pris la fuite, donc c'était considéré comme le prolongement du jour suffisant. C'est entre les deux soirs que la Pâque est immolée. Alors c'était interprété très largement, hein, ça donnait une plage horaire considérable, parce qu'il la fallait bien, matériellement. Oui, madame. Oui, on peut très bien imaginer que Jésus faisait ressortir d'autant plus qu'il était l'accomplissement de la Pâque en célébrant une Pâque sans autre agneau que lui-même, pourrait-on dire. Ce serait concevable, oui. Et donc ça correspond à la deuxième grand type de solution. Alors il y a un cas, je crois, de date déplacée. Oui, oui, il y a un cas au temps d'Ézéchias, me semble-t-il. Mais je n'ai pas le souvenir très précis de cela. Donc, une certaine correspondance. Mais il faut ajouter tout de suite que si c'est à cette correspondance qui va aider notre doctrine, ce n'est pas jamais comme la Pâque que la scène est appelée par la suite. Et il n'y a pas la moindre velléité chez les premiers chrétiens de la célébrer seulement une fois par an. C'est tout de suite dans les maisons tous les jours, puis ensuite le premier jour de la semaine, et jamais la scène n'est nommée la Pâque. Certains ont cru que dans 1 Corinthiens 5, quand Paul dit « Le Christ, notre Pâque, est immolé », il y a une allusion à la Sainte Seine. Mais il n'y a pas la moindre allusion dans le contexte, ce n'est pas du tout mis en rapport avec la Sainte Seine. Et c'est l'interprétation de type allégorique que Paul en tire, pour la Pâque, il ne fallait pas de levain, donc éliminez tout le levain de votre vie, montre que l'immolation du Christ comme la Pâque, c'est la croix, et que la fête des pains sans levain, réinterprétée, qui suit, c'est toute la vie chrétienne qui doit éliminer le levain du péché. L'interprétation que Paul fait donc de la Pâque dans cette formule, en 1 Corinthiens 5, exclut plutôt le rapprochement avec la Sainte Seine. Et en tout cas, ailleurs, vous n'avez aucun rapprochement particulier qui soit fait. Ce qui veut dire que c'est bien un rite nouveau et qu'il ne faut pas majorer les aspects de continuité. Alors, dans le cadre du repas pascal que Jésus prend avec ses disciples, quelle est la signification des gestes qu'il fait et qu'il va ordonner à ses disciples de reproduire par la suite? Plusieurs l'ont étudié et je crois que il y a un article assez récent de Gordon Wenham, je crois que c'est Gordon, peut-être pas Gordon, c'est peut-être son frère, dans Temelios, qui va très, très bien dans ce sens. C'est un geste prophétique, comme quand Ézéchiel met le siège devant Jérusalem en étant couché le long d'une maquette de la ville, ou qu'il annonce le jugement en tailladant en coup d'épée les poils de sa barbe. C'est un signe prophétique qui, dans le contexte, me semble être d'une clarté parfaite. Jésus dit, j'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant qu'elle se réalise, que le type, la figure que la Pâque constituait devienne histoire. Et il parle de sa mort, c'est évident, puisqu'il dit, je ne mangerai plus désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne avant de souffrir. Donc, Jésus a la pensée de sa mort qui est toute proche, premièrement à l'esprit, et c'est pour ça qu'il a eu tellement envie d'avoir encore ce dernier repas solennel avec ses disciples. Et c'est l'accomplissement de la Pâque. Jésus prend le pain qui est associé dans le repas à l'agneau, en tout cas, il le casse devant eux, c'est mon corps qui est donné pour vous. La coupe, avec le vin, mon sang versé. Jésus annonce que ça y est maintenant, le don de son corps et de son sang, séparé, donc c'est la mort, c'est tout proche, c'est une annonce. J'ai imaginé, parce que je crois que ça aide beaucoup ceux qui ont eu une autre optique qu'on leur a en quelque sorte imposée pendant longtemps, d'avoir cet exemple. J'ai imaginé une scène qui pourrait être prise comme analogue, une simple analogie bien sûr, beaucoup plus faible. Mais imaginez Jan Palach, le résistant dissident tchèque à Prague, qui, la veille du jour où il a décidé de s'immoler par le feu pour attester le besoin de liberté à Prague, réunit ses amis les plus proches, qui est avec eux, et puis qui prend un morceau du repas, qui verse l'alcool dessus, met le feu. C'est mon corps qui brûle pour la liberté. C'est parfaitement clair. Le symbolisme serait là en situation très très clairement lisible. Je pense que dans le cadre de ce repas, le geste de Jésus, avec les paroles explicatives, est tout à fait net. Il annonce prophétiquement sa mort toute proche, avec aussi d'ailleurs l'intention de cette mort, qui est donnée pour vous. Mon sang versé en rançon pour la multitude, pour les péchés de la multitude. Et qu'on se permettant une nouvelle alliance. En ce sens, je prends là les divers textes, nous avons là une annonce prophétique. Et il commande à ses disciples de faire cela ensuite en mémoire de lui. Faites ceci en mémoire de moi. Quand il ne sera plus avec eux, que l'époux leur sera enlevé, il faudra qu'il fasse rétrospectivement les gestes que Jésus a fait de manière anticipative. Ils reprendront le symbolisme qui annonçait la mort du Seigneur pour rappeler cette mort du Seigneur avec sa signification. Je crois que c'est là vraiment très clair dans le contexte. Et cela s'accorde fort bien aussi avec la Pâque. En fait, puisque le repas de la Pâque était un mémorial de ce premier sacrifice d'agneau qui avait permis au peuple d'Israël d'échapper aux destructeurs et de sortir d'Égypte. Il y avait eu là un sacrifice réel, bien que simplement d'animal, dont le sang avait racheté les premiers-nés d'Israël et avait permis leur libération, et si chaque année les Israélites devaient célébrer le repas, c'était en mémoire de cette délivrance, qui est une délivrance intervenue une fois pour toutes. C'était un fait d'histoire qu'il rappelait. Donc vous voyez, vous avez là une correspondance qui est très claire et qui me conduit au deuxième point, le rôle de mémorial. Lorsque les théologiens aujourd'hui emploient le terme de mémorial, plutôt que celui de commémoration par exemple, il y a généralement une petite intention cachée derrière. Je ne partage pas cette intention, mais je trouve, ça fait partie de mon attitude générale à l'égard du langage, que je n'ai pas à m'en troubler et si j'utilise le mot mémorial. Allez, j'utilise le mot mémorial, mais je combats cette petite intention cachée qui s'y associe si souvent. Il y a une théorie, ça s'appelle le cliché, parfois je dis c'est un mythe, un mythe académique, qui est très très courant dans mes débats avec les théologiens catholiques en particulier, je l'ai souvent rencontré. Un cliché courant qui s'est introduit, je pense, il y a une cinquantaine d'années dans le monde académique, selon lequel, pour la mentalité hébraïque, pour les Israélites, le mémorial, ce n'est pas simplement le rappel de l'événement passé comme passé, une disposition mentale qui fait penser à nouveau à ce qui s'est passé autrefois. Non, non, le mémorial rend présent l'événement passé. Le mémorial est actualisation, nous dit-on. L'événement passé n'est plus du passé révolu, il est actuel. Et si Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », cela signifie que l'événement même de son sacrifice est à nouveau présent parmi ceux qui célèbrent l'Eucharistie. Et il y a pratiquement un seul texte qu'on voit citer constamment partout à l'appui de cette théorie du mémorial pour les Hébreux. C'est un texte de la Mishnah, c'est-à-dire de la première partie du Talmud, du grand commentaire de la loi qui a été mis au point à partir du milieu du deuxième siècle de notre ère. Dans cette Mishnah, il y a une parole de Rabbi Gamaliel qui est rapportée, c'est la Mishnah sur la Pâque, qui dit que toute personne qui prend la Pâque doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Je peux peut-être vous donner la formule tout à fait exacte, j'ai avec moi mon dossier sur ce sujet. Là. Vous avez dans le traité Pessachim, c'est le pluriel du mot Pessah, la Pâque, vous avez cette parole. Dans chaque génération, tout homme est obligé de se considérer lui-même comme s'il était sorti d'Égypte. Voici la parole qui est attribuée à Gamaliel. Alors, la plupart des spécialistes pensent que c'est Gamaliel II, pas Gamaliel I, le maître de Paul, mais plutôt Gamaliel II, à la fin du 1er siècle, vers 90. Dans un des manuscrits de la Mishnah, le manuscrit de Budapest, le codex de Budapest, la mention de Gamaliel manque, donc il est possible qu'en fait la parole ne soit pas venue à l'origine de Gamaliel, mais peu importe. Voilà la parole qui est sans cesse citée à propos de cette notion du mémorial. Je crois qu'il faut dénoncer une supercherie dans cette thèse, que rien ne prouve que les Israélites aient ainsi considéré les commémorations ou actes de mémorial, que la notion de mémoire servie par la racine zahar, d'abord, en hébreu, n'implique nullement cette idée que le passé cesse d'être passé d'une certaine façon, au moins pour devenir actuel lorsque l'on en fait mémoire. Je crois qu'on peut dénoncer comme infondée cette thèse. Quand dans les discussions que j'ai eues, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'affirme mon opposition, en général, personne n'a un seul argument à m'opposer. Hein. Simplement, comme ça se dit, comme c'est une opinion admise, largement partagée, tout, et que ça plaît, c'est ça le problème, c'est que ça plaît. Alors, tout le monde l'admet, et puis si on vient dire, mais il n'y a aucun fondement sérieux, parce que la formule de Gamaliel, elle n'est pas du tout équivalente à l'affirmation de cette actualité du passé ancien. Gamaliel dit bien comme s'il était sorti d'Égypte. Il ne prétend pas du tout que l'événement de la sortie d'Égypte est en quelque sorte présent. Ce qu'il affirme, c'est une obligation de solidarité à travers les générations, que tous les enfants d'Israélites se considèrent comme un dans le grand corps à travers le temps d'Israël, bénéficiaires de l'œuvre que Dieu a accomplie alors par la sortie d'Égypte, rien de plus. C'est un comme si. Il s'agit de tirer les conséquences d'un événement passé, mais l'événement passé n'est pas de manière plus ou moins mystérieuse considéré comme à nouveau présent dans la formule même de Gamaliel. J'ai tiré pas mal de réconfort du fait que Roger Beckwith, qui est sans doute l'un des plus grands spécialistes de la littérature juive de l'époque du Nouveau Testament, avant et après le Nouveau Testament, qui a écrit un livre de plus de 500 pages que nous avons en bibliothèque sur le canon, d'après cette littérature. Et il y nage comme un poisson dans l'eau. Hein. C'est un anglican évangélique d'Oxford. Il a dit très carrément dans un article de Temelios, que j'aime citer, que ça n'a pas le moindre fondement. Que c'est simplement parce que les gens ont pris leur désir pour des réalités qu'ils ont attribué à la mentalité israélite cette thèse. Alors, moi je ne suis rien quant à la connaissance des sources vives, du Talmud, etc., par rapport à Beckwith. Que lui le dise me permet de dire, voilà, je suis bien sûr qu'il n'y a réellement rien dans le dossier. Alors, pour l'Ancien Testament, je suis plus à l'aise, il y a une thèse de doctorat faite sur la racine Zahar par Willy Shotroff, qui ne tire pas du tout ses conclusions ordinaires du passé rendu présent. Et je cite volontiers un texte que je trouve assez remarquable dans le Deutéronome, Deutéronome 11.2, qui montre bien que pour le texte biblique lui-même, les générations se distinguent. Et dans Deutéronome 11.2, les enfants de la génération qui est sortie d'Égypte sont bien distingués de cette génération. Eux, ils n'ont pas vécu les événements. Et pourtant, ils célèbrent la Pâque. Deutéronome 11.2 marque cette différence. Il n'y a absolument pas lieu d'attribuer à la mentalité hébraïque ce mélange des temps. Donc, Moïse s'adresse dans Deutéronome 11.2, aux survivants de la première génération, et dit « Contrairement à vos enfants qui n'en savent rien, qui n'ont pas vu tout cela, vous qui êtes là aujourd'hui, vous savez ce que l'Éternel vous a appris, ses grandeurs, ses déploiements de puissance, les signes miraculeux de la sortie d'Égypte. » Donc il y a une distinction très nette qui est faite entre les générations. Juste pour vous dire que je dénonce donc une thèse tout à fait controuvée dans cette thèse sur le mémorial. Alors, je suis prêt à utiliser le mot mémorial, mais il ne signifie pas une présence particulière de l'événement passé. Ce qui est vrai, c'est que lorsque la Bible emploie le verbe « se rappeler » ou aussi le verbe « se souvenir », il ne s'agit souvent pas seulement du phénomène psychologique, de la pensée que la chose a eu lieu. Il s'agit aussi de l'action qui en tire les conséquences pour aujourd'hui. Et c'est dans ce sens que nous lisons « Dieu se rappela Noé, etc. Il agit. Et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Ça ne veut pas dire que ça s'efface de la mémoire au sens on va dire psychologique, si on veut l'appliquer ce terme à Dieu. Les péchés seront encore rappelés au jugement dernier. Mais c'est « je n'en tiens plus compte ». Je ne me souviendrai plus, c'est « je n'en tiens plus compte ». Donc ça c'est vrai. Et dans le mémorial, on peut dire qu'il y a la conduite qui correspond aux conséquences à tirer de l'événement passé. Là j'en suis d'accord. Mais alors ça va tout à fait dans le sens de ce que nous avons vu, l'engagement. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pas simplement « ah oui, je me rappelle ». J'agis en conséquence aujourd'hui. On peut signaler aussi, d'ailleurs, que du côté de la théologie catholique, il y a depuis longtemps des ambiguïtés au propos même que j'évoque. Bien sûr, la notion de mémorial a tellement plu aux catholiques, à tous les catholicisants, parce que ça allait dans le sens de l'actualisation du sacrifice de la croix dans le sacrifice de la messe. Il y avait là quelque chose qui correspondait, c'est pour ça que ça a tellement plu. Mais il y a une ambiguïté que je signale parce que souvent nous n'en sommes pas assez conscients. C'est un sacrifice, un vrai sacrifice propitiatoire pour les vivants et pour les morts, disait le vieux catholicisme. C'est dans les textes officiels. Bien qu'aujourd'hui les théologiens soient souvent très gênés par de telles formules. Mais il est non sanglant. Ça c'est chez Thomas d'Aquin, c'est dans la grande tradition. Un vrai sacrifice, mais non sanglant. C'est le sacrifice de la croix rendu présent, et il était sanglant. Or, vous voyez, c'est curieux cette ambiguïté-là. Et en quoi est-il sacrifice? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de sacrificiel? Les théologiens catholiques sont assez embarrassés pour le dire. Eux-mêmes, dans le livre L'initiation théologique, qui est un manuel théologique catholique que nous avons en bibliothèque, je crois que c'est le père Roguet d'ailleurs, le même comme le commentateur de la Somme, montre que Thomas d'Aquin lutte avec cette difficulté et qu'il n'y a pas une solution très claire. Souvent il s'en tire à partir de l'étymologie latine du mot sacrifié, mais ce n'est pas l'étymologie du mot biblique. Faire du sacré. Sacrifier, c'est faire du sacré. Mais à ce moment-là, vous voyez, ça devient très, très, très vague et général. Il y a une ambiguïté, donc, qui mérite d'être simplement mentionnée. Troisième point, le rapport à la communauté. Le symbolisme du repas en général, dans tous les peuples, particulièrement au Moyen-Orient probablement, et dans l'Ancien Testament, est l'arrière-plan du symbolisme propre à la scène, je dis sous-bassement de celui de la scène. C'est tout spécialement ce que François Bassin a souligné dans sa thèse de doctorat. Prendre un repas ensemble, c'est exprimer et servir l'unité du groupe. Vous savez, avoir mangé du sel avec quelqu'un, on ne peut plus lui faire du mal. On est lié à lui. Vous voyez, il y a un symbole pour les relations sociales qui est très très puissant dans le repas. Et je crois qu'il est vraiment fondamental de reconnaître que le symbolisme du repas du Seigneur est construit sur celui-là. C'est le repas commun des disciples qui exprime leur unité de groupe, leur communion, qu'on pourrait dire sociale. Et il y avait des groupes, des associations, des guildes dans le judaïsme, on utilisait pour cela le mot chavura, qui célébraient par des repas leur association. Je crois qu'il est clair que Jésus présuppose cet usage pour ses disciples. Ses disciples vont exprimer leur union par des repas communs, et des repas qui avaient un caractère festif, et il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et en particulier, à propos de la coupe, il dit « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez ». Moi, je ne vois qu'une interprétation claire de cette clause « Toutes les fois que vous en boirez ». C'est l'équivalent de « Chaque fois que vous célébrez un repas festif de votre chavura, de votre communion, faites-le en mémoire de moi ». Référez-le à moi. Ça ne peut pas être simplement chaque fois que vous célébrez la scène, célébrez la scène. Et, c'est une tautologie, là. Et puis, paraît-il, les juifs pieux, en tout cas, ne buvaient pas de vin à tous les repas. Mais ils buvaient du vin dans leur repas festif. Donc, toutes les fois que vous en boirez, c'est toutes les fois que vous célébrez un repas de fête qui exprime l'union de votre groupe. Référez-le à moi. C'est par ma mort, par le don de mon corps, par l'effusion de mon sang, que vous êtes constitués en un corps. C'est toutes les fois que vous en boirez, me semble prendre tout son relief et son sens dans cette optique. Mais ça veut dire que vous avez un jeu entre le corps, la pensée du corps du Christ livré à la mort, et le corps du Christ que constituent ses disciples. Le pain représente les deux à la fois. Ce n'est pas le même corps, mais c'est le même thème du corps. Le pain qui est cassé et distribué représente le corps de Jésus livré à la mort, mais il représente aussi, d'après 1 Corinthiens 10, ça c'est très, très clair, nous sommes un seul corps, comme il y a un seul pain. Il représente aussi la communauté constituée comme un corps, et dont l'union n'est plus simplement l'union sociale de ceux qui s'associent parce qu'ils ont les mêmes idées ou les mêmes goûts, etc., mais l'union surnaturelle créée par la mort de Jésus, par le sacrifice de Jésus et le don de son esprit qui en dérive. Les disciples de Jésus sont constitués en un seul corps à cause de lui, et lorsqu'ils célèbrent leur union, c'est en référence à lui. Faites ceci en mémoire de moi. Je crois que nous avons là vraiment le noyau de la signification de la scène. Et si cela est bien vu, alors nous comprenons encore mieux les paroles de Paul dans 1 Corinthiens 11 à propos de manger et boire indignement sans discerner. Les exégètes se divisent, est-ce que c'est sans discerner le corps du Seigneur, le corps qu'est l'Église ou le corps que représente le pain? C'est probablement les deux. Enfin, moi, je peux pas dire, c'est les deux, parce que justement, le pain représente les deux. Et il s'agit de comprendre leur lien. C'est par le don du corps de Jésus à la croix que les disciples sont constitués en un seul corps spirituel. Et se comporter comme les Corinthiens riches qui prenaient tout leur repas et qui se saoulaient même alors que les autres crevaient de faim, c'est vraiment ne pas discerner le corps, pécher contre le corps du Christ, dans les deux sens. Je crois que nous avons là vraiment le noyau de la signification. Oui, oui. Oui, oui. 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 C'est un développement suggestif. Il n'est pas dans la Bible elle-même telle qu'elle, parce que les mots « ceci est mon corps brisé » pour nous ne se trouvent pas dans les meilleurs manuscrits. C'est-à-dire que le participe « klomenon » du verbe « klao » brisé n'est pas dans les meilleurs manuscrits. Vous avez soit mon corps qui est pour vous, sans participe, sans verbe, soit qui est donné pour vous, dans les divers textes. Donc il ne faut pas insister trop sur le brisement dans le symbolisme de la scène. Le partage du pain, il est pour la distribution, il n'est pas une représentation du maltraitement qu'a subi le corps du Seigneur, qui d'ailleurs n'a pas été brisé. Aucun de ses os n'a été brisé. Mais, cela dit, ce que vous dites demeure comme une pensée juste que nous pouvons avoir méditativement devant les textes. Et quand Paul s'exclame au début d'un premier Corinthiens, le corps de Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Je pense bien qu'il n'en est pas loin. Alors, dans cette optique, vous voyez comment se résolvent les questions relatives à la présence du Seigneur, à ce qu'on appelle la présence réelle. Nous n'avons pas le temps d'aborder ces sujets. J'ai d'ailleurs un article de Fabien Fection que je vous ai signalé. Il me semble très clair que aucun élément dans les récits ne suggère que le pain et le vin sont porteurs de présence du Christ d'une manière particulière. Pas le moindre indice. Marcus Barth a su l'exprimer avec force. Pas le moindre indice dans ce sens. Il est absent de corps et justement des signes le représentent, des signes matériels, mais il est présent spirituellement, bien sûr, puisque ceux qui sont réunis en son nom et qui se réfèrent à sa mort, qui vivent de son esprit, sont en communion avec lui. Donc, bien sûr, il y a présence spirituelle, mais c'est la présence dont ils jouissent tout au long de leur vie chrétienne, selon la promesse même de Jésus. Alors, le dernier point que j'aurais aimé aborder, bon, ça avance un tout petit peu, mais aurait concerné le traitement de la scène chez Jean. Pourquoi Jean ne mentionne-t-il pas l'institution de la scène? J'ai déjà dit que dans Jean 6, il n'y avait pas de fondement solide, et que même Cajetan, le cardinal, l'avait reconnu, pour que l'on dise c'est la Seine qui est en cause, pourquoi la Seine n'est-elle pas mentionnée du tout? Il y a plusieurs hypothèses. Une hypothèse tout à fait à rejeter, celle de Jérémia, celle de beaucoup de sacramentalistes, c'est que c'était tellement sacré que c'était déjà la discipline du secret, appelée la discipline de l'arcane. On sait que les chrétiens, à partir du IIIe siècle, ont suivi ce qui s'est appelé la discipline de l'arcane, c'est-à-dire du secret, arcanum, le secret. Mais il n'y en a pas la moindre trace avant le IIIe siècle. Alors c'est une échappatoire. Je ne pense pas non plus, simplement parce que je crois à l'unité du canon du Nouveau Testament, que Jean soit anti-sacramentaliste. Plutôt anti-sacramentel, qu'il soit hostile au sacrement. Certains l'ont dit, hein, certains lui ont imputé une hostilité au baptême et à la scène. Mais je pense que Jean a dû discerner, il a sans doute rédigé son évangile assez tard, dans le premier siècle, certaines tendances sacramentalistes, une valorisation excessive, une attitude peut-être superstitieuse, et donc il met en relief la signification. Et il ne met pas l'accent sur le rite comme tel. Voilà l'hypothèse qui me paraît la plus plausible. Et c'est ce qui expliquerait, cela je le dis donc pour finir, quand Jean XIII, lorsqu'il parle du repas au cours duquel la scène a été instituée, du dernier repas dont il a pris à ses disciples, ce qu'on appelle la dernière scène, lorsqu'il a institué la Sainte Cène, il ne parle pas de l'institution de la scène, mais à la place, il rapporte le lavement des pieds. Ce lavement des pieds n'est pas l'institution d'un rite, c'est un exemple à suivre et pas un rite à pratiquer, mais si vous cherchez le sens, c'est exactement le même sens que celui de la scène. Il s'agit de l'humiliation radicale à laquelle Jésus va se soumettre. Car laver les pieds des disciples, c'est se faire esclave. Or, c'est précisément ce qu'il a fait suprêmement à la croix. Donc, c'est le sens de son humiliation, le même sens que le don du corps représenté par le pain. Et il s'agit de l'application à ses disciples. Le fait de recevoir le lavement des pieds du Seigneur correspond au fait de symbolisé par la mendication du pain et la participation à la coupe. Il faut, pour être sauvé, pour avoir une part avec le Christ, accepter son humiliation radicale, l'application de cette humiliation radicale à soi-même. Ce que Pierre, d'abord, ne voulait pas faire, et Jésus a lui dit, tu n'acceptes pas. Ça représente la réception du fruit de la mort de Jésus, pour chacun qui accepte que Jésus se soit humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix pour lui. Voilà ce que représente le lavement des pieds. Voilà ce que représente aussi la scène, prendre part à la scène. Et Jean, pour faire ressortir le sens, a choisi de rapporter cet autre incident du repas, le lavement des pieds, plutôt que l'institution de la scène. Voilà la suggestion que je vous fais. Je crois que il y a beaucoup de cohérence dans cette lecture. Voilà, nous avons atteint l'heure, mais bon, je laisse une question au moins. C'est... C'est possible. En tout cas, pour toutes les omissions chez Jean, on peut toujours penser qu'il fait fond du savoir général. Mais c'est quand même étonnant. Moi, il me semble que ça correspond à une intention. Il aurait pu se contenter d'une ligne. Vraiment, il me semble qu'il y a comme une réserve qui se montre par là. Voilà. Merci bien. Bonne continuation d'Université d'été.